des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Saye au micro de Canal M pour vous présenter cette émission des livres plein les oreilles avec aujourd'hui l'univers d'Annie Quintin et notamment son petit dernier qui s'appelle Quelque part entre toi et moi. C'est une suggestion de l'ami Yannick Olassa qui a lu pour nous ce livre d'Annie Quintin. Mais cette dernière a un autre bouquin disponible au SQLA dont on va parler également ensemble. Ça s'appelle Désespérer, s'abstenir, mais ne vous abstenez pas par pitié. En seconde partie, on va retrouver l'ami Gérald de Cousineau. Si vous êtes avide d'entendre parler de nouveautés, bien sachez que c'est le petit dernier de Michel Houellebecq, cet iconoclaste de la littérature qu'on aime pourtant tellement lire, dont il sera question. C'est le livre Sérotonine, qui existe sur toutes les plateformes commerciales. Et figurez-vous que là, c'est très drôle, il existe, mais en allemand seulement, pour le moment. Il a été enregistré seulement dans la langue de Goethe. Mais on a trouvé une version audio à la BNFA, qui est la Bibliothèque numérique de France accessible. Et c'est en voie de synthèse, mais c'est avec ça que l'ami Gérald a lu ce bouquin. Et mieux vaut cela que rien du tout. Sinon, il sera aussi question à l'émission de nouvelles parutions, en audio bien évidemment. Et le premier livre, je vous le disais, dont il sera question s'appelle bien « Désespérer, s'abstenir », mais que ça ne vous empêche tellement pas de rester avec nous. Je vous propose un premier petit segment qui sera à la fois musical et parlé. Côté musique, c'est une chanson d'une fille qu'on ne connaît absolument pas. On ne connaît pas la toune, ce n'est pas très bien enregistré. Mais c'est tellement la chanson pour mettre la table et pour accueillir Annie Quintin. Et ensuite, c'est une capsule qui a été produite par VLB Éditeur au moment où le livre « Désespérer, s'abstenir » est sorti. Ce ne sont pas des mots directement d'Annie Quintin, mais ce pourrait l'être. Et surtout, il s'agit là de messages tels qu'on peut les lire sur les réseaux amoureux, de rencontres amoureuses. Alors, régalez-vous, ça s'appelle « Désespérer, s'abstenir », mais par pitié, ne vous abstenez pas de rester avec nous.
On se connaît sous pseudonyme dans le monde virtuel. On se donne rendez-vous dans le réel, synonyme de sexuel. Après quelques emails, on s'en mêle. Vous trouvez ça décadent, c'était mieux il y a 20 ans. T'es sûr que c'était mieux de picoler avant de s'enrouler. Après quelques emails,
je suis une femme ouverte et curieuse, à la recherche d'un homme propre, respectueux, viril, mais pas colon, avec un portfolio audiovisuel intéressant, qui aime les activités sportives suivies d'un après-midi au spa et d'un repas végétalien. Je n'embrasse pas avec la langue, j'aime pas qu'on fasse des commentaires sur mon apparence physique et je refuse de retrouver des poils dans mon bain, sur mon savon, sur mon bol de toilette, n'importe où en fait. Je déteste le poil. Je fais mon moksha yoga les lundis, mercredis, vendredis. Je prends des cours d'acrylique les samedis PM. Je fais de la photographie d'art contemporain les dimanches AM. En dehors de ça, je suis disponible pour un premier repas. Ensuite, je vais analyser vos candidatures. Et si vous m'intéressez, je vais vous rappeler dans les 3 jours suivants pour fixer un deuxième rendez-vous dans le but d'avoir un rapport sexuel. Lors de cette deuxième rencontre, prévoyez un sous-vêtement propre, un rasoir, une débarbouillette et un rouleau de ruban adhésif de calibre industriel. Je ne couche qu'avec les résidents du Myland, du centre-ville anglophone et, à la limite, du plateau Mont-Royal. C'est fini les épices. J'ai hâte de vous rencontrer, les gars.
Annie Quintin, bonjour.
Bonjour, Clotilde.
Vraiment, j'en veux à ma culture de ne pas avoir, de ne pas vous avoir connu plus tôt. C'est vraiment un gros, gros manque dans ma culture littéraire québécoise. Quelle écriture vous avez ? Je précise
Merci.
Que bon, c'est pas vous qui avez écrit directement ce qu'on vient d'entendre, mais c'est
non.
issu directement de votre façon d'écrire et surtout
ça, oui.
du thème de ce premier livre dont je voudrais qu'on parle avec vous, Annie
oui.
Quintin, qui est désespérée s'abstenir.
Oui.
Alors, on est dans l'univers de ces amoureux, parfois pas mal intenses, mais seuls. En fait, de ses futurs amoureux, ils sont tout seuls, ils sont prêts à faire n'importe quoi jusqu'à aller sur les réseaux Internet.
Mon personnage principal,
Clara, hein?
Clara, oui, c'est pas une typique célibataire à la recherche de l'amour, c'est plutôt un peu un anti-personnage de comédie romantique, à savoir qu'elle, c'est une indépendante qui veut pas, mais qui se fait prendre un peu au jeu, qui fait des rencontres un peu sans trop savoir où elle s'en va. Et puis, elle va être confrontée à des gens soit qui veulent trop ou des gens étranges. Puis, elle est accompagnée de ses deux amis, Yann et Clara, qui sont peut-être un peu plus, si je peux dire entre guillemets, dans la game des rencontres. Mmh. C'est un paquet de quiproquos, de situations.
Il y a quasiment un peu de votre ville hein, dans votre univers. Très moderne, très contemporain, mais donc avec des portes qui s'ouvrent, qui se referment,
c'est ça,
qui,
oui.
Qui claquent. Qui,
c'est ça. Au fond, je voulais dans ce roman-là représenter un peu l'esprit de Montréal, les rencontres, le rythme aussi de passer de un à l'autre parfois.
Mm-hmm.
Ce qui est un peu drôle, c'est qu'avec ce roman-là, ça date des sites de rencontres où est-ce que les gens avaient un pseudonyme. Ça a un peu changé quand même depuis. Maintenant, c'est les applications.
Oui, c'est vrai.
Je dirais, à la limite, c'est encore plus rapide, encore plus magasinage au suivant.
Ouais.
Je peux en témoigner parce que maintenant, je suis célibataire et j'expérimente sur le terrain. Donc, je suis en recherche peut-être pour une suite. Donc,
Mais vous avez expérimenté après avoir écrit le bouquin ou vous l'aviez déjà expérimenté?
C'était déjà avant, mais au fond,
c'est
pas toujours... J'ai eu quelques petites anecdotes qui me sont arrivées, mais il y a d'autres situations qui sont arrivées à d'autres des amis. Ou des
parce que c'est comme ça que vous écrivez, vous en parlez, puis vous dites « Écoute, je suis en train d'écrire ça en ce moment. » Et vous faites alimenter comme ça par les personnes
oui,
qui
Oui, au fond, je vais chercher tout un paquet d'anecdotes. Et puis, en ayant connu c'est quoi les sites de rencontres, c'est un peu facile de broder et de créer des situations. À la limite, il n'y a rien d'exagéré. Tout peut arriver.
Annie Quintin, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance un petit peu plus
oui.
avec vous. Bon, j'ai lu évidemment à votre sujet que vous écrivez depuis que vous êtes toute petite,
oui.
Que vous avez même été poussée par des professeurs.
Oui.
J'ai lu tout ça, mais ça a quand même été long finalement avant que... Ben, en fait, vous avez fait un premier essai, pas fructueux, c'est bien ça? C'était une nouvelle où je ne me souviens plus, vous avez écrit, vous avez fait paraître quelque chose?
Non, mais peut-être
bon,
un truc
cas,
quand j'étais ado.
Oui, ben c'est ça, exactement. C'est ça. Je pense que c'est ça. Et puis, à un moment donné, vous vous êtes dit, ça a été un petit peu comme une révélation ou alors comme une résolution.
Vraiment, littéralement, c'était au mois
c'était
de janvier.
C'était une résolution.
Oui. Janvier 2009, je me suis dit, cette année, j'écris un roman pour le publier. Donc, c'était clair.
Parce que
première
vous auriez
fois de ma vie,
écrire un roman, mais ce n'est pas forcé qu'il aurait été publié.
Ben, je me suis dit...
Il va
la
être
totale,
publié.
C'est ça. Donc,
il va être publié.
Ouais.
Est-ce que ça a été difficile pour trouver l'éditeur ou ça s'est fait assez facilement?
Oui et non. Il y a quand même eu quelques petites mésaventures, si je peux me permettre, parce que c'est pas, si je peux dire, toutes les maisons d'édition qui sont dans le respect des droits d'auteur,
ben
ces
oui,
trucs-là.
Sûr,
et bon.
Ouais.
J'ai fini par aboutir chez VLB Éditeur, qui est vraiment une maison d'édition qui prend soin des livres, qui c'est une équipe qui veut vraiment mener à bien un projet, faire un beau livre et un bon livre.
On les aime, ceux-là.
Oui.
Et vous savez que vos livres, maintenant, ont été enregistrés, du moins celui-ci, plus un autre dont on va parler dans quelques minutes avec Annie Colassa, mais ils ont été enregistrés en audio, adaptés pour l'instant. Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit, Annick Quintin, que vos livres sont sortis en version audio, comme ça?
Je suis très intriguée. J'ai su qu'il y avait une version braille, mais au fond, c'est vous qui m'avez appris qu'il y avait une version audio, donc j'ai jamais entendu...
Tout à l'heure, je vous promets, lorsqu'on va parler avec Yannick, vous aurez droit à un extrait de votre plus récent bouquin qui s'appelle c'est Quelque part entre toi et moi, qui est vraiment qui vient de sortir, hein, quoi, il y a quelques mois.
Là, c'est sorti en
2017.
Oui, c'est ça. Oui.
2017, c'est ça. Alors, on reprend. Vous lancez la résolution, vous vous dites OK à partir de maintenant. Si vous aviez à vous définir en tant qu'auteur, parce que moi, j'ai lu. De ce que j'ai lu de l'autre livre, il y a beaucoup d'humour, mais ça grince aussi.
Mmh,
hein.
Oui.
Alors, comment vous, en tant qu'auteur, vous vous définiriez pour vous présenter à ceux qui, peut-être comme moi, ne vous connaissent pas et c'est dommage. Voilà.
Merci, vous êtes toutes pardonnées. Au fond, je dirais que j'essaie d'aller chercher un portrait assez fidèle de la vie dans des situations souvent plus amoureuses, mais d'aller... d'utiliser une touche d'humour. J'aime aussi beaucoup le drame. Donc, je suis un peu dans les deux. Oui. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que quelque chose soit réaliste. Donc, aller dans la romance, trop exagéré, non. J'aime bien que mes personnages soient bien campés, qu'ils soient vivants, qu'on puisse à la limite les entendre.
Oui.
Qui puissent être nos amis à la limite.
Ah oui, ah oui.
C'est ça.
De la même façon d'ailleurs que je lisais les propos d'une lectrice qui est complètement en amour avec votre littérature et qui disait d'ailleurs à la fin, quand elle a refermé Désespérée s'abstenir, elle disait « Je suis comme en peine d'amour littéraire, j'aurais voulu que ça continue. » Et elle dit au moins ce qu'elle fonde, c'est qu'elle est beaucoup sur les réseaux sociaux et elle répond. Ça, je pense que ça aussi, c'est fantastique. Vous avez une écriture très sobre, mais que moi, j'apprécie personnellement. J'ai relevé quelques petites phrases. On est dans l'autre livre, quelque part entre toi et moi, mais c'est pas grave. Ça, par exemple. « Je ris sans joie, point, et l'acquiesce sans rire, point. » C'est beau, c'est magnifique d'écrire comme ça, avec cette précision millimétrée, là, géométrique, j'allais dire. C'est superbe.
Merci, j'avais pas remarqué. Bon,
Non, mais ça, par exemple, si vous aviez lu ça chez un autre auteur, honnêtement, vous auriez trouvé ça pas pire, non? Je ris sans joie, il acquiesce sans rire. C'est beau? Non? Bon. Jean-François, ça va? Mais moi, j'adore ça,
mais
moi.
Merci.
Mais non, mais c'est vrai.
J'ai écrit ça, vraiment.
Oui, vous avez écrit ça, c'est en page 36. Et j'ai écrit à côté « J'aime ces formules ». Voyez-vous? Alors, et on va... OK, il nous reste juste une petite minute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je voudrais lire un tout petit bout de ce livre dont je parle, « Désespérer, s'abstenir ». Et puis ensuite, on va téléphoner à Yannick Olassa pour qu'elle intervienne dans la discussion et que vous puissiez ensemble parler notamment « Quelque part entre toi et moi ». Alors là, nous sommes dans le livre « Désespérer, s'abstenir » avec un « Fever Forever ». Ça, c'est le pseudo.
Oui.
C'est ça. Donc, alors écrit Fever comme la fièvre, Forever, de son pseudo, qui n'avait rien à son actif pour déclencher une fièvre. Ça, c'est du Annie Quintin. S'est avancé pour me donner un baiser sur la joue, ce que j'ai esquivé en laissant passer un client qui voulait sortir. Fever, whatever, finalement, vous mettez-vous à l'appeler, avait un style ordinaire, des vêtements ordinaires, châtain moyen, visage banal, beige minuscule, majuscule. De mon point de vue, je ne percevais que la calvitie naissante qu'il prenait soin de cacher avec de longs cheveux gracieusement cueillis à partir de l'oreille opposée. Façon René Lévesque, quoi. Et si je pouvais me mirer dans le reflet de son cuir chevelu, c'est que j'étais une géante à côté de lui. « Oh, t'es plus petit que moi !» a été l'affirmation fraîchement et sans doute trop franchement sortie de ma bouche et vlan pour l'estime de soi du pauvre gars et vlan pour ma mise en pli qui venait de se faner sous le coup de la déception. S'il a été ébranlé par ma remarque, il n'en a rien laissé paraître. Il faut dire que la hauteur du talon de mes bottes donnait peu de chance à ces 5 pieds 11 pouces virtuels et de toute évidence purement théorique. Dans les petits pots, les meilleurs onguents ? Peut-être pas. Voilà pourquoi j'ai invité aujourd'hui Annie Quintin. J'adore cette écriture-là. On se retrouve dans quelques minutes. Restez là avec Yannick Olassa et Annie Quintin. « Bonjour Yannick.
Bonjour Clotilde.
Comment va la vie Yannick? Yannick Olassa est avec nous.
Ça va bien.
Ça va bien Yannick, oui. On ne va pas faire semblant, vous connaissez bien Annie Quintin, vous.
Oui.
Salut Yannick.
Allô Annie.
Vous vous connaissez comment? Parce que vous avez déjà lu de ses livres, vous en avez déjà parlé?
Oui, j'ai déjà lu en fait tous ses livres, j'en ai déjà parlé, puis on s'est rencontrés dans les salons du livre.
Écoutez, c'était une belle suggestion parce que c'est vous hein, qui me l'avez suggéré, Annie, et comme je lui ai candidement avoué au début de cette émission et de l'entrevue, je n'avais encore jamais lu aucun livre d'Annie, puis j'ai vraiment adoré ça, et même si elle n'était pas là, je dirais la même chose. Là. Alors,
oui.
J'ai déjà évoqué avec elle le livre « Désespérer, s'abstenir », qui existe également en format accessible au SQLA, mais je voudrais maintenant que vous et elle, que vous parliez, qu'on parle même toutes les trois de ce livre quelque part, entre toi et moi, qui est sorti en 2017, celui-ci, et que vous m'avez suggéré. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce livre?
Ben, écoutez, ce qui me plaît dans tous les livres d'Annie, c'est qu'elle sait doser légèreté et profondeur.
Ah, on en parlait.
Elle parle du couple de différentes façons, avec différentes variables. Et là, dans quelque part, entre toi et moi, c'est l'histoire d'Ève et Louis qui sont en couple depuis 5 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ève a un trouble obsessionnel compulsif. Donc, un trouble obsessionnel compulsif, c'est des pensées envahissantes et angoissantes qui forcent la personne à faire quelque chose pour apaiser son anxiété. Donc, ça peut être, par exemple, comme Ève dans le roman, c'est d'aligner des choses, il faut que tout soit à sa place, etc. Donc, c'est vraiment très envahissant. C'est un calvaire pour Ève, mais aussi pour Louis, qui est prof d'université, qui a des tonnes de papiers dans plusieurs pièces de l'appartement, ce qui ne va pas aider les tocs d'Ève.
Ben oui.
Et, en fait, elle lui dit qu'elle a besoin qu'il fasse vie à part, c'est-à-dire qu'ils habitent plus sous le même toit. Et là, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer à partir de ce moment-là, parce que l'éloignement physique va créer une brèche entre les deux. C'est déjà un couple, à la base, où il y a beaucoup de non-dits. Et cette situation-là va aller en s'empirant, hein, parce que quand on ne vit plus ensemble, ben il y a toutes sortes de choses qu'on ne dit pas à l'autre parce qu'on n'a pas l'occasion, etc. Mais c'est vraiment là un livre là qui est très intéressant. Premièrement, on apprend à comprendre quand quelqu'un a un défi au niveau de la santé mentale sur le couple. Son impact sur le couple. Puis, ce qui est très, très intéressant, c'est que, dans quelque part, entre toi et moi, on a la perspective de Louis.
Oui,
ça,
absolument.
C'est très, très intéressant.
Je vois Annie qui me fait un sourire. Je ne sais pas, j'imagine que vous avez peut-être envie de lui poser quelques questions au sujet de ce livre que je suis moi-même en train de lire. Il m'en manque encore peut-être une petite cinquantaine de pages que je me réserve toujours pour après l'entrevue. Est-ce que vous voulez vous adresser à Annie?
Oui, bien sûr. Ben, Annie, qu'est-ce qui... parce que, bon, la santé mentale, c'est intéressant et tout ça, mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'écrire un personnage, de créer un personnage avec des tocs?
Je suis contente que tu me poses cette question-là, Yannick, parce que au fond, dans toutes les critiques que j'ai lues de mon roman, il y en a beaucoup qui disent que c'est un roman sur le TOC. Et pour moi, je voulais parler d'un couple, au fond, qui fait appartement à part. Uh-huh. Et le TOC, ça a été vraiment surtout un prétexte pour étoffer mon personnage. Moi, j'aime les personnages qui ont une certaine forme, si je peux dire... petite névrose ou des défis personnels. Dans Désespérer, s'abstenir et Cher trou de cul, mon personnage de Clara, c'était une fille indépendante qui avait une peur de l'engagement. Donc, je cherchais quelque chose vraiment, un défi personnel, un peu comme un comédien qui va se trouver un rôle, comment on appelle ça, un rôle de création?
De composition.
Un rôle de composition, exactement. Okay. Donc, c'était pour moi, écrire, c'est donner un rôle de composition à mes personnages. Donc, moi, j'ai pas de talk, mais j'aimais la partie recherche, puis essayer de mettre des défis, de mettre des embûches aux personnages. Mais à la limite, je suis tombée là-dessus juste pour compliquer les choses.
Donc, oui. Et puis,
et
ça les complique. Et ça m'aide d'autant plus aussi en exergue le côté foutoir et bordélique de la coloc à Louis. Parce que lui, Louis, finalement, il se ramasse avec une fille quand même qui prend beaucoup de place.
Cette terrible coloc.
Ah, c'est ça, cette terrible coloc, Tania. Et voilà, quoi. Il quitte, il a besoin d'espace, puis paf, il se retrouve avec ça. C'est pas bon. Puis comme il a besoin de pognon, puis qu'elle lui dit, écoute, voilà, je te paye 3-4 mois d'avance. Il dit oui très rapidement, mais il s'en mord les doigts un petit peu.
Il se retrouve un peu avec le contraire de sa copine, ce qui ne va pas aider... notre couple.
Qui c'est Charles?
Parfait.
Qui c'est Charles?
Ah, lui aussi, on l'aime pas trop.
Vous l'aimez pas trop, mais bon.
Non, mais...
Je sais pas, parce que... Qu'est-ce qu'il a d'odieux, ce Charles-là, Yannick?
Ah, mon Dieu, Charles. C'est... il fait vraiment... Ben, en fait, il poursuit, moi, je dirais... intensément
Ève de ses assiduités.
Ah, absolument. Puis on dira pas ce qui se passe là, mais ouais. C'est un homme qui est très confiant, hein, qui est un homme d'affaires confiant, ouais. Et tout, ouais. Et ça va beaucoup la bousculer.
Est-ce qu'on peut... On va écouter un petit extrait, si vous le voulez bien. Elle avait tellement hâte de cela. Quelque part entre toi et moi, je rappelle que j'accueille ce matin Annie Quintin et qu'en ce moment, nous sommes avec Yannick Colassa et nous parlons de Quelque part entre toi et moi. Voici un extrait.
Suzy a l'orgasme facile. Même quand elle ne le veut pas, même avec le gars qui a l'équivalent d'une petite patate en guise de pénis. Un rien lui fait voir des étoiles. Selon elle, c'est de l'ordre de la malédiction d'avoir hérité d'un clitoris bionique. La pauvre. La voilà qui continue de se déverser à l'intention de Jean et Jeanne, apparemment semi-émoustillée par ce vibrant témoignage. Les deux sont comptables. Je me dis que tout ce qui ne concerne pas les chiffres doit les exciter. Quant à mon chum... Il reste fidèle à lui-même, imperturbable. Louis. Ève a bu trop de vin. Elle a trinqué à la santé de Suzy et de ses orgasmes spontanés. J'ai dû lui rappeler, en arborant un sourire forcé à l'intention des autres convives, qu'un 5 à 7 ne devait pas se terminer en état d'ébriété à 6h12 et surtout pas en dansant lassivement près du plateau de fromage. Je sais qu'elle le regrettera amèrement demain matin. Nous saluons nos amis qui nous observent. Je lui sers d'appui lorsque nous naviguons vers la voiture. Je déverrouille la portière. Elle semble fascinée par mes doigts. Elle se met à l'irnifler. OK, qu'est-ce qu'ils ont mes doigts? Pour en finir, je prends sa main. Pose un baiser sur ses doigts qui se referment vite alors que le reste de son corps semble si lent à réagir. Son regard semi-brumeux s'émerveille comme à retardement. Un baisement? Ouh là là, mais tu ne me fais plus ça? Il me semble que je ne t'ai jamais fait de baisement, dis-je en lui ouvrant la portière et en lui faisant signe de s'asseoir. Allez.
Ça vous a bien fait rire, Annie.
Oui,
hein?
C'est ça.
Mais ce sont vos mots.
Oui, c'est encore plus drôle.
Alors, je voudrais préciser, hein, Yannick, pour les auditeurs, que ce livre est bâti entre elle et lui. Donc, parfois, c'est Ève qui parle. Donc, comme là, par exemple, dans l'extrait, au début, c'était Ève. Et ensuite, c'était Louis qui parlait. Et chaque chapitre commence par un « quelque part ».
Oui.
Ça veut dire que quelque part entre eux, entre lui et elle, il y a quelque part le chaos, quelque part où ça sent pas bon, quelque part un samedi de couple, quelque part au confessionnal virtuel, etc., etc. Très belle structure, Annie. Hein? Vous en pensez quoi, Yannick?
Ah,
structure
moi,
vraiment superbe. Hein?
Oui, j'adore, j'adore vraiment. Puis de toute façon, comme moi, je suis une fan d'Annie pour son humour.
Oui, hein?
Puis, pour sa façon de structurer. Puis comme je disais, il y a de la profondeur. Ça semble léger, hein? On rit. Mais
ah oui.
Il y a beaucoup de profondeur.
Ils sont intenses, hein?
Oui.
Ils sont intenses, tous, les uns et les autres. Yannick Olassa, merci beaucoup pour cette suggestion et j'ai été tellement contente de pouvoir vous réunir toutes les deux, quoi.
Merci.
Oui.
Hein?
Merci.
Parce que c'est pas toujours évident parce qu'il y a les agendas des uns et des autres et puis le jeudi, tout le monde n'est pas forcément disponible. Alors, merci beaucoup Yannick et puis merci Annie Quintin pour Quelque part entre toi et moi.
Merci à vous.
Mais de rien. Et puis Désespérer s'abstenir, ces deux livres sont disponibles en version accessible au SQLA. Merci Yannick, merci Annie.
Merci beaucoup.
Bye bye.
Au revoir. Au revoir.
Des livres plein les oreilles, la suite. On va faire dans la nouveauté en cette seconde partie, notamment grâce à Gérald Cousineau qui a lu, et c'est en audio, Le petit dernier de Michel Houellebecq qui s'appelle Sérotonine. J'ignorais complètement que Michel Houellebecq avait également enregistré des chansons. En voici une, ça s'appelle Novembre.
Je suis venu dans le café au bord du fleuve, un peu vieilli, un peu blasé. J'ai mal dormi dans un hôtel ou chambre neuve. Je n'ai pas pu me reposer. Il y a des couples et des enfants qui marchent ensemble. Dans la paix de l'après-midi, il y a même des jeunes filles qui te ressemblent. Dans les premiers pas de leur vie, je te revois dans la lumière, dans les caresses du soleil. Tu m'as donné la vie entière et ses merveilles. Je suis venu dans le jardin où tu reposes, environné par le silence. Le soir tombait et le ciel se couvrait de roses. Et j'ai eu mal de ton absence. Je sens ta peau contre la mienne. Je m'en souviens, et je voudrais que tout revienne. Ce serait bien. En attendant le train de nuit au milieu du silence, quand le jour s'est évanoui, j'ai senti ta présence. Toutes les nuits, seul dans mon rêve, je sens ta peau et ta chaleur au moment où la nuit s'achève. C'est moi qui meurs.
Salut Gérald.
Salut Clotilde.
Savez-vous qui chantait là?
Non, je cherche depuis une minute.
C'est Michel Houellebecq.
Oh, je l'ai pas reconnu du tout, mais oui. Pas du tout. Ah, mais oui. C'est joli.
Oui, c'est beau, hein. C'est avec un arrangement d'un musicien que j'aime beaucoup, Jean-Claude Vanier. Et oui, c'est oui. une. Ça s'appelle Novembre. Et oui, c'est une poésie mise en musique par Vanier. Et c'est voilà, c'est Michel Houellebecq lui-même en personne, l'iconoclaste, qui chante ça.
Il y a
ça.
Un bel harmonica derrière là.
C'est beau, hein. C'est oui. beau. Voilà, écoutez, j'ai vraiment. Voilà, c'est ça. Tout ça pour dire que vous allez nous parler du petit dernier de Michel Houellebecq.
Eh oui, ce bonhomme, ce drôle de bonhomme, ce drôle de pistolet, Michel Houellebecq, son dernier livre, hein, Sérotonine, paru il y a quelques mois, vraiment au début de janvier 2019. Alors pourquoi sérotonine? Sérotonine, c'est ce qu'on appelle communément l'hormone du bonheur, c'est un neurotransmetteur. C'est d'autant plus curieux que le personnage principal de Sérotonine, eh bien, il en manque beaucoup de cette hormone du bonheur. Oui. Mais le titre, c'est quand même Sérotonine. Donc, nous avons un narrateur qui s'appelle Florent Claude. Le narrateur dit tout de suite qu'il déteste son prénom, on le comprend. Et c'est un ingénieur.
Pourquoi, Florent?
Je m'entends de ça, Florent Claude. C'est assez lourd, non? Comme
ah, c'est tout le prénom?
Ah oui, c'est les deux prénoms du narrateur.
Ah oui, en effet, oui, ça commence à faire. Oui, ça commence à faire. Voilà. Le dernier donc, ferme la porte, oui.
Ce n'est pas son prénom. Ben, c'est un ingénieur en agroalimentation, ou si vous voulez, un ingénieur agronome, comme Houellebecq, paraît-il d'ailleurs, c'est son premier métier. Donc cet ingénieur-là a 46 ans, et là, il laisse sa carrière. Il est un peu désabusé de tout, il voit la condition des agriculteurs s'effriter de plus en plus, même on parle de désespérance des paysans. Alors, il a des amours extrêmement compliqués. Ah là là, il carbure aux antidépresseurs et lance à nouveau quelques considérations sur les antidépresseurs. Il a une compagne, entre autres, qui s'appelle Claire, qui a un mal fou à se loger à Paris. Ça, à nouveau, des considérations sur l'immobilier parisien, et oui.
Oui, 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 oui.
À un moment donné, il apprend à tirer. Ça, à nouveau, des considérations sur les armes à feu. Donc, toujours un peu comme ça, mais... Tout ça, ça paraît un peu noir, hein, mais en même temps, c'est drôle.
Il paraît que c'est son, en tout cas de ce que j'en ai entendu beaucoup, c'est son livre le plus finalement drôle et le plus bouleversant en même temps.
C'est très curieux parce que, et c'est vrai, moi, c'est j'ai souvent ri en lisant Houellebecq parce que moi, les misanthropes, je l'ai souvent dit, me font rire.
Oui.
Alors là, le narrateur est assez misanthrope, il est misogyne, misanthrope à l'occasion, et donc il m'a fait rire parce que là, le narrateur, comme l'auteur d'ailleurs, ne fait pas dans le politiquement correct, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc, il égratigne joliment une telle, il égratigne joliment un tel. Mais c'est pas grave. Moi, je connaissais déjà Houellebecq, donc je suis pas surpris. Comme dit un critique, bienvenue en Houellebecqy.
Oui, c'est vrai, j'ai vu ça.
Oui, c'est exactement ça. Si vous avez déjà vu Houellebecq, vous ne serez pas surpris. Mais par contre, Clotilde, ce roman que moi, j'ai beaucoup aimé, pour la première fois, dans un roman de Houellebecq, j'ai été ému.
Ah
et
oui.
Ça, je le dis, là, parce qu'il y a un romantisme, bon, noir, si vous voulez, mais un romantisme quand même, parce que de toutes les amours compliquées qu'il connaît, il y a une femme qui se détache du lot, elle s'appelle Camille. Et là, ça nous vaut de très belles pages, d'un très beau lyrisme, et cette femme-là va lui faire vivre, je parle du narrateur, bien sûr, les 5 plus belles années de sa vie. Il en parle de façon magnifique. Mais, en même temps, cet amour-là, malheureusement, prend fin. Et ça, c'est très curieux chez Houellebecq. Il y a des passages qui sont d'abord très lyriques, très, très, très bien ciselés, très bien écrits. Et là, quelques phrases plus loin, là, on tombe dans le trivial, le grossier. Mmh. Mais ça aussi, c'est du Houellebecq tout craché.
Ben oui, puis en plus, il aime ça. C'est vraiment du pur jus provocateur, ce qu'on veut.
Ah oui, ça, le narrateur, en fait, tous les narrateurs de Houellebecq, je pense, sont provocateurs. Mais parallèlement à cet amour, à ce grand amour perdu, il y a aussi, et ça m'a beaucoup touché, un très beau portrait d'amitié. Parce que le narrateur, Florent Claude, a un ami de jeunesse qui s'appelle Émeric, un agriculteur normand. Et lui, c'est un militant. À la fin, il y a une démonstration, une manifestation d'agriculteurs qui va tourner à la tragédie, j'en dirai pas plus. Mais ce portrait est absolument magnifique également. Oui, hein. Et ça aussi, j'ai rarement lu ça chez Houellebecq. Donc, je dirais que le personnage de Camille et le personnage d'Émeric, ça vient comme sauver le livre, sauver le narrateur, plus précisément.
D'accord. Et en plus, au moment où je vous écoutais, là, je vous écoutais parler des agriculteurs, et là, l'image que j'avais en ce moment en France et depuis quelques mois, c'est celle des gilets jaunes. C'est incroyable comment ce type-là arrive toujours, souvent, parce qu'il l'a écrit bien avant les Gilets jaunes.
Oui, c'est vrai.
Et pourtant, hein, c'est, y a quelque chose avec Houellebecq, je ne sais pas pourquoi.
C'est vrai. Peut-être alors, parce qu'il est à la base ingénieur agronome ou ingénieur en agroalimentation, oui. il a senti le danger, parce que le regard qu'il porte justement sur la France, pas seulement sur la paysannerie, mais sur la France, oui. est d'une acuité rare. Vraiment, là, c'est d'une lucidité bouleversante, je dirais, incroyable. Et c'est pas parce que c'est la France seulement, je veux dire, on pourrait porter le même regard un peu tristounet sur la paysannerie au Québec, sur l'agriculture québécoise.
Oui.
Mais là, le
pas.
Regard qu'il porte... Oh là là, c'est d'une acuité, mais c'est vrai qu'il a le don de sentir ce qui s'en vient.
Alors,
la France qu'il nous peint, c'est pas Jojo. Hein.
Oui, et le pari aussi qu'il fuit finalement, et je voudrais lire un petit extrait qui dit ceci. « Je détestais Paris, cette ville infestée de bourgeois éco-responsables me répugnait. Je n'étais pas éco-responsable, je roulais en 4x4 diesel. » Je n'aurais peut-être pas fait grand-chose de bien dans ma vie, mais au moins j'aurais contribué à détruire la planète. Bon, voilà, ça c'est le côté Houellebecq, voilà.
Le narrateur se fout complètement de son propre destin, et comme vous le dites, il est fier d'avoir au moins
Absolument.
Contribué à détruire la planète.
Et il dit qu'il sabotait systématiquement le programme de tri sélectif mis en œuvre par le syndic de l'immeuble en balançant les bouteilles de vin vide dans la poubelle réservée au papier et aux emballages, les déchets périssables dans le bac de collecte du verre. Et il y a encore, je m'enorgueillissais quelque peu de mon absence de civisme, mais aussi je tirais une mesquine vengeance du montant indécent du loyer et des charges. Une fois que j'avais payé le loyer et les charges versées à Yuzu, l'allocation mensuelle qu'elle m'avait demandée pour subvenir aux besoins du ménage, entre parenthèses pour l'essentiel commander des sushis, j'avais dépensé exactement 90% de mon salaire mensuel. En somme, ma vie d'adulte se résumait à grignoter lentement l'héritage de mon père n'avait pas mérité ça. Il était décidément temps que je mette un terme à ces bêtises. Et là, voyez-vous, en un paragraphe, hein, on l'haït pour mourir et on a juste envie de le prendre dans nos bras à la fin du paragraphe.
C'est vrai, il est haïssable, hein. Mais en même temps, il devient pathétique.
Oui.
Plus le roman avance, plus il devient pathétique et plus on se sent d'amitié pour cet homme-là. Vous avez parlé de Yuzu, ça nous vaut ça des pages très drôles. En fait, le personnage de Yuzu est carrément grotesque. Le personnage de Claire, là, c'est triste à pleurer. Mais encore une fois, je reviens aux pages consacrées à Camille. Ne serait-ce que pour ça, il faut lire ce roman de Houellebecq.
Alors, je précise, je l'ai dit en ouverture de cette émission, commercialement parlant, il n'est pas encore disponible en
c'est
audio.
Vrai.
Mais
il est pris à la médiathèque.
Voilà, à la médiathèque qu'on appelle aussi la BNFA.
Oui,
pour banque numérique.
Moi, je m'appelle plus la bibliothèque Valentin à Huy.
Oui, ah, ok, d'accord.
C'est plus le nom que je connais, là. Mais je suis sûr qu'il sera bientôt disponible au Québec.
Ah, c'est
clair. Enfin, où est-ce que là, où au Québec, parce que, évidemment,
c'est
tout Québec se trouve déjà, je pense,
bien
en,
sûr,
en maçonnerie.
Bien sûr. Mais en attendant, on rappelle à nos auditeurs que pour s'inscrire à l'assaut Valentin Huy, c'est exactement comme pour le SQLA. Il faut simplement prouver qu'il y a une déficience perceptuelle, visuelle, etc. Et à ce moment-là, vous êtes automatiquement inscrit et vous avez le droit à ces nouveautés-là. Alors, c'est important, c'est intéressant.
Oui, parce qu'avec la médiathèque, on peut télécharger 20 livres par quinzaine.
Imaginez.
C'est beaucoup, ça. C'est une quarantaine
c'est
par mois, là.
Non, vous...
Et, on vous donne un numéro, vous entrez dans le site, et ça, je l'ai encore fait ce matin, ça se fait, sans blague, les yeux fermés.
Nous dit Gérald, qui, je vous le rappelle, est non-voyant. Bon, Gérald, je vous adore, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir choisi Sérotonine de Michel Houellebecq aujourd'hui.
Ça m'a fait beaucoup plaisir.
Hein? Et puis, on se retrouve dans quelques semaines, bien sûr.
Oui, bien sûr, au printemps.
Prenez soin de vous.
Merci.
Je vous embrasse.
Faut que j'aille partir le barbecue. Le beau-père pis sa gang viennent d'arriver. Et ça pas gêné pour s'inviter. C'est drôle qu'arrive à l'heure du souper. J'ai fait l'erreur d'emprunter du beau-frère. J'aurais été mieux à la caisse populaire. Et ma motte de jour, je suis chanceux de le voir. Ça me tombe ses nerfs, vous pouvez pas le savoir. Faut que j'aille partir le barbecue.
Le beau-père pis sa gang viennent d'arriver. Et ça pas gêné pour s'inviter. C'est drôle qu'arrive à l'heure du souper. Et pas sans garder, il a pas digéré. C'est pas de ma faute, ben oui, je l'ai raqué. Et j'étais pas bien chaud, mais j'ai mangé une claque. Parce qu'à 24, il en reste rien que 3-4. Faut que j'aille partir le barbecue. Le beau-père pis sa gang vient d'arriver. Et ça va gêner pour s'inviter. C'est drôle qu'arrive à l'heure du souper. Il me reste rien que ballonné. J'ai hâte de dire ma façon de penser. Mais faut que j'attende d'avoir tout payé. Faut que j'aille partir le barbecue. Le beau-père pis sa gang vient d'arriver. Ils ont pas gêné pour s'inviter. C'est drôle qu'arrive à l'heure du souper. C'est drôle qu'arrive à l'heure du souper.
Et pourquoi pas un petit western à l'émission, des livres plein les oreilles, surtout quand ça nous amène à un bouquin où le barbecue est un des personnages vraiment central de ce livre dont je vous parle maintenant, qui s'appelle Un peu beaucoup à la folie. C'est une nouveauté en audio, pas forcément en papier, mais en audio. Vous trouvez ça sur toutes les plateformes commerciales, que ce soit Audiolib, Audiogram, Apple eBooks, tout ce que vous voulez. Ça s'appelle Un peu beaucoup à la folie, je vous le disais. C'est de Liane Moriarty. Nous sommes autour d'un barbecue. Trois couples épanouis, des beaux enfants, une amitié solide. Bref, on a l'impression que tout va très, très bien. Et puis, ce barbecue entre voisins, par un beau dimanche, où évidemment il fait beau. Alors, tous les ingrédients sont réunis pour passer un excellent moment. Mais pourquoi ? Pourquoi, deux mois plus tard, les invités ne cessent-ils de se répéter si seulement nous n'étions pas allés à ce barbecue-là ? Oui, le nom de Liane Moriarty doit vous dire quelque chose. C'est elle qui a écrit notamment « Secret du mari », qui a été traduit dans 55 pays. C'est elle aussi qui a écrit « Petit secret, grand mensonge », adapté par HBO. Liane Moriarty, qui nous dit-on ici sur le site d'Albin Michel, parce qu'au départ, c'est une édition sur papier. Albin Michel, qui est Madame Moriarty, donc, qui continue de dévoiler la noirceur qui rôde sous les vies ordinaires et qui nous plonge au cœur des redoutables petits mensonges et des inavouables secrets de l'âme humaine. C'est fin, c'est décapant, c'est jubilatoire, et j'en ai un extrait.
Il se pouvait que le jour du barbecue, le temps ait été froid, mais maussade, certainement pas. Erika savait que les récits de témoins n'étaient pas fiables. C'était bien connu, car les gens croyaient rembobiner leur petit enregistreur installé sous leur crâne, alors qu'en réalité, ils se fabriquaient des souvenirs. Ils élaboraient leurs propres récits. Et lorsque Clémentine se rappelait le barbecue, elle se rappelait un temps glacial, maussade. Mais Clémentine avait tort. Erika se rappelait. Elle se rappelait, elle n'inventait rien. Que le matin du barbecue, Vide s'était penché à la vitre de sa voiture et lui avait lancé « Quel temps magnifique !» Erika avait la certitude absolue que c'était ce qu'il avait dit. À moins que ce soit splendide. Mais c'était un mot à connotation positive, elle en était sûre. Si seulement Erika avait répondu « Oui, c'est vraiment un temps magnifique, splendide !» et appuyé sur l'accélérateur.
« Je me souviens que j'avais habillé les petites très chaudement, »
dit Clémentine. C'était probablement Sam qui avait habillé les filles, se dit Erika.
On passe à un autre univers complètement, celui d'Alexandre Jolien. Alexandre Jolien, que vous connaissez peut-être, qui est suisse, qui vit en France, qui est handicapé de naissance suite à l'étranglement du cordon ombilical à la naissance. Il est atteint de ce qu'on appelle d'athétose. Il a étudié la philosophie. C'est un philosophe. Il a étudié à Fribourg. Il a vécu plus de 17 ans dans une institution spécialisée pour personnes handicapées, moteurs, cérébrales. Il a étudié dans une école de commerce et puis ensuite il s'est tourné vers la philosophie. Et c'est un type qui est très, très doué pour le bonheur. C'est un type qui s'exprime merveilleusement bien. C'est une vraie star en France. C'est une star un philosophe star, ce qui est rare, parce que généralement, ce sont parfois des gens qui peuvent faire fuir. Mais la philosophie de Jolien, ou de Jolien, je ne me souviens plus comment il le prononce là-bas, peu importe, ça s'écrit J-O-L-I-E-N, qui notamment a été couronné par le prix Pierre Simon, Éthique et Société, pour l'ensemble de son œuvre. Alors cette philosophie nous touche droit au cœur, et parmi les livres qu'il a écrits, là il y en a un qui vient de sortir, ça s'appelle la sagesse espiègle. Je rêve d'un itinéraire qui m'apprenne à danser, à me départir de la dictature du « on » pour progresser vers une complète déprise de soi. L'homme qui écrit ces lignes, pourquoi le cacher, a sombré au fin fond d'une addiction qui a bien failli le perdre. Dans son errance, il s'est souvent cassé la figure contre d'inefficaces injonctions, toujours cette orthopédie mentale, cette espèce de camisole de force qu'on voudrait refiler à celui qui révèle notre impuissance. Et au bout, il a dû emprunter des voies peu fréquentées et pour tout dire pas très orthodoxes, d'où le carnet de route qui suit, donc ce livre-là, qui s'intitule « La sagesse espiègle », une sorte de récit clinique de tentative pour trouver un équilibre. Je ne résiste pas au plaisir de vous en faire écouter un extrait. Je précise que c'est chez Écoutez lire de chez Gallimard Audio.
En plein déménagement, l'heureuse visite d'une amie bouddhiste vient me requinquer. Avec un calme à toute épreuve, au milieu des cartons, elle me lance « C'est le bordel, mais il n'y a pas de problème !» Je le tiens, mon mantra. Ces simples mots m'assènent un magistral coup de poing spirituel. La majorité des soucis sortiraient-ils tout droit d'un mental qui complique tout? En cas de tempête psychique, y recourir sans modération. C'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. D'où ce premier outil, dans la pharmacie provisoire et bien branlante, il faut le reconnaître. Distinguer le tragique, inévitable et peut-être pas si dramatique que cela, et la tonne de psychodrames fabriqués par un moi plus ou moins détraqué, qui n'en finit pas d'en rajouter des couches, de polluer le réel, de ses projections et de se faire du mouron à tout bout de champ. Pour foncer vers la grande santé, arrêtons de rêver à un monde aseptisé, purgé du tragique, et amusons-nous à trouver de la joie dans ce bas monde, au cœur des vicissitudes. Nietzsche aide à coup sûr. Il faut avoir encore du chaos en soi pour enfanter d'une étoile dansante. Le Coëlette, le Bouddha, Boès, Montaigne, Schopenhauer, Freud, ils sont légion à marteler que l'existence est dure, fragile, précaire, à la merci de la première tuile venue. Notre boulot, notre défi? Dissiper ce sentiment d'alarme quasi permanent qui gâche tout et tenter de déposer pour de bon ce poids.
Un petit polar, tiens, pour finir cette émission, c'est poussé par audiolib.fr, qui est l'une des plateformes commerciales sur lesquelles se retrouve ce livre maintenant, qui est signé Franck Tilliez, T-H-I-2-L-I-E-Z. Face à la tombe de sa sœur jumelle Dorothée, décédée 10 ans auparavant, Alice de Haine s'interroge. À quoi rime cette photo de Dorothée prise il y a à peine 6 mois qu'elle a récupérée des mains d'un immigré clandestin ? Alice sait que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. Son psychiatre à l'hôpital de Lille, Luc Graham, doit lui révéler le résultat d'un an de psychothérapie. Mais les événements étranges qui se multiplient autour de la jeune femme vont l'en empêcher. Son père, agressé chez lui à l'arme blanche et qui prétend avoir tenté de se suicider. Ce chemisier ensanglanté qu'elle découvre dans sa douche, à propos duquel elle n'a pas le moindre souvenir. Et cet homme, retrouvé nu à un abri de bus et qui semble avoir vu le diable en personne. Et grâce à l'intervention de Julie Roqueval, assistante sociale en psychiatrie, Luc Graham, d'abord dubitatif, se décide enfin à mener l'enquête et c'est un aller simple vers la folie. Voici un extrait avec notamment le personnage de Luc Graham et de Alice.
Luc Graham charge les milliers de photos de la base de données IAPS, International Affective Picture System, et retire, à l'aide d'un logiciel adapté, 70% des images à valence positive ou neutre pour ne garder que le pire. Il s'apprête à injecter dans le cerveau d'Alice un condensé d'horreur. Il le sait, c'est ce qu'il recherche. La terroriser pour les besoins de la thérapie, mais pas n'importe comment. Il fixe les yeux d'Alice sur le moniteur, ce bleu de faïence si particulier qu'il connaît par cœur. Aller au bout, pour elle. Il charge le programme dans la mémoire de l'ordinateur. Écran blanc. Alice patiente, cet exercice est monotone mais facile. Simplement choisir le bon bouton en se fiant à ses émotions. De vraies images remplacent les plus, moins et points d'interrogation. Le test a démarré. Apparaît alors une chaise vide, au centre d'une pièce bleue. Sans réfléchir, Alice enfonce le bouton point d'interrogation. Cliché suivant. Un cocker promené en laisse par un enfant. Alice sourit. C'est comme s'il se matérialisait, ce chien, pour venir lui écraser le nez de son épaisse truffe noire. Un bip. Alice revient à elle. Elle clique sur « plus », évidemment. Don Diego, le cocker de son enfance. Opération à cœur ouvert, triple pontage. Alice s'agite, la mentonnière la maintient. Après 2 secondes, elle presse le moins. Très désagréable.
Pour les amateurs du genre, hein, ça s'annonce pas mal du tout. Ça s'appelle le Fracture, je vous le rappelle. C'est de Franck Tilliez, T-H-I-2-L-I-E-Z. C'est mis de l'avant par audiolib.fr, mais vous pouvez retrouver ça sur à peu près toutes les plateformes commerciales. Alors, c'est toujours Clotilde Say qui vous parle. Je vous rappelle que c'est l'émission des livres plein les oreilles sur les ondes de Canal M qui va s'achever dans quelques secondes. Mais comme il nous reste pour une fois un petit peu de temps, eh bien, ça me tenterait peut-être d'aller faire un petit tour avec vous pour voir du côté de livreaudio.vuesetvoix.com ce qu'il y a de nouveau, ce qu'on vous propose en ce moment sur ce site-là. Qu'en pensez-vous? Alors, on vous propose de Louise Tremblay, Desciambre, Histoire de femme, Félicité, c'est le tome 2. On fait aussi un gros plan pour de ce trouble fait à l'école des gars, signé Marie Pesquins. Vous vous souvenez peut-être, j'avais reçu Marie Pesquins à l'émission. Et puis, il y a des titres qui ont beaucoup de succès. C'est notamment le cas du livre de Nicole Bordelot, L'art de se réinventer, et aussi celui de Colette Portelance, L'acceptation et le lâcher prise. C'est fou comme on a tous finalement besoin de se faire dire des choses pour nous aider à vivre, peut-être simplement à se réveiller le matin. Moi, s'il y a une chose qui me fait du bien, mes amis, c'est la lecture. Et de plus en plus, j'écoute moi aussi des livres audio. Alors j'espère que vous aussi, vous découvrez de plus en plus ce plaisir que vous offre la littérature, cette autre façon de lire par les oreilles. Voilà, alors tout ça, c'est sur livresonoreausingulier.vuesetvoix.com. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission que vous pouvez écouter n'importe quand sur canalm.org. Merci à Jean-François Roy. C'était Clotilde Say, votre animatrice et réalisatrice, qui vous souhaite une belle semaine et surtout de belles lectures, que ce soit sur papier ou par les oreilles. Salut! Do, 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 do.